Frédéric Nietzsche, Humain trop humain, Le voyageur et son ombre. 104. Lecteur que l'on ne désire pas. Combien un auteur est tourmenté par ces braves gens à l'âme épaisse et maladroite qui, chaque fois qu'ils se heurtent quelque part, ne manquent pas de tomber et de se faire mal. 105. Idées de poète. Les idées véritables chez les vrais poètes sont toujours voilées, comme les égyptiennes. Seul l'œil profond de la pensée regarde librement par-dessus le voile. Les idées de poète ne valent pas autant en moyenne qu'elles en ont l'air. C'est qu'il faut payer aussi le voile et sa propre curiosité. 106. Écrivez simplement et utilement. Les transitions, les détails, la variété des couleurs dans les passions, tout cela, nous en faisons grâce à l'auteur parce que nous l'apportons avec nous et que nous l'en faisons profiter pour peu qu'il nous dédommage de quelque façon que ce soit. 107. Wieland. Wieland a écrit l'allemand mieux que n'importe qui, et dans la perfection et l'imperfection. Il y a gardé sa maîtrise. Sa traduction des lettres de Cicéron et celle de Lucien sont les meilleures traductions allemandes. Mais ces idées ne nous donnent plus à réfléchir. Nous supportons ces moralités joyeuses tout aussi peu que ces joyeuses immoralités. Toutes deux sont inséparables. Les hommes qui y prenaient plaisir étaient certainement, au fond, des hommes meilleurs que nous. Mais ils étaient aussi passablement plus lourds, ce qui fait qu'ils eurent besoin d'un pareil écrivain. Goethe n'était pas nécessaire aux Allemands. C'est pourquoi ils ne savent pas qu'en faire. Étudiez à ce point de vue les meilleurs parmi nos hommes d'État et nos artistes. Tous, ils n'ont pas eu Goethe comme éducateur. Ils ne pouvaient pas l'avoir comme tel. 108. Faites rare. De la concision solide, du calme et de la maturité. Quand tu trouveras ces qualités réunies chez un auteur, arrête-toi et célèbre une grande fête au milieu du désert. Il se passera du temps avant que tu n'éprouves de nouveau un aussi grand plaisir. 109. Le trésor de la prose allemande. Si l'on fait abstraction des œuvres de Goethe, et surtout des entretiens de Goethe avec Eckermann, le meilleur livre allemand qu'il y ait, que reste-t-il en somme de la littérature allemande en prose qui mérita d'être relue sans cesse? Les aphorismes de Lichtenberg, le premier livre de l'histoire de ma vie de Jung Stilling, l'arrière-saison d'Adalbert Stifter et les gens de Sylvilla de Gottfried Keller. Et avec cela, nous sommes provisoirement au bout du rouleau. 110. Style écrit et style parlé. L'art d'écrire demande avant tout des équivalents pour les moyens d'expression qui sont seuls à la portée de celui qui parle. Donc pour les gestes, l'accent, le ton, le regard. C'est pourquoi le style écrit est tout autre chose que le style parlé et quelque chose de bien plus difficile. Il veut, avec des moyens moindres, se rendre aussi expressif que celui-ci. Démosthène tint ses discours autrement que nous ne les lisons. Il les a refaits pour qu'ils puissent être lus. Dans le même but, les discours de Cicéron devraient d'abord être démosthénisés. Maintenant, on y trouve encore beaucoup plus de vestiges du forum romain que le lecteur ne peut en supporter. 111. Citer avec prudence. Les jeunes auteurs ne savent pas que les bonnes expressions et les bonnes idées ne se présentent bien que parmi leurs semblables, et qu'une excellente citation peut anéantir des pages entières et même tout un livre lorsque l'on avertit le lecteur en ayant l'air de lui dire « Prends garde, je suis la pierre précieuse, et autour de moi il y a du plomb gris et misérable. » Chaque mot, chaque pensée ne veut vivre que dans sa société. Ceci est la morale du style choisi. 112. Comment doit-on dire les erreurs? On peut discuter pour savoir s'il est plus nuisible de mal exprimer les erreurs ou de les exprimer aussi bien que les meilleures vérités. Il est certain que dans le premier cas, elles nuisent au cerveau d'une double manière et qu'il est plus difficile de les en extirper. Mais il est certain qu'elles agissent avec moins de certitude que dans le second cas. Elles sont moins contagieuses. 113. Restreindre et agrandir. Homer a réduit et amoindri l'étendue du sujet, mais il a amplifié et fait sortir d'elle-même les différentes scènes. Et c'est ainsi que, plus tard, procédèrent toujours à nouveau les poètes tragiques. Chacun saisit le sujet dans des fragments encore plus petits que son prédécesseur, mais chacun aboutit à une floraison plus riche encore, dans les limites strictes de ces paisibles haies de jardin. 114. La littérature et la morale s'expliquent. On peut montrer, à l'exemple de la littérature grecque, quelles sont les forces qui font s'épanouir l'esprit grec, comment il entra dans différentes voies, et ce qui finit par le rendre faible. Tout cela donne une image de ce qui s'est en somme passé avec la moralité grecque et de ce qui se passera avec toute autre morale. Comment elle commença par être une contrainte, montrant d'abord de la dureté, puis devenant peu à peu plus douce. Comment se forma enfin le plaisir que procurent certaines actions, certaines conventions et certaines formes. Et, sortant de là, encore un penchant à l'exercice exclusif et la possession unique de celle-ci. Comment la voix s'emplit et se comble de compétiteurs? Comment arrive la satiété? Comment on recherche de nouveaux objets de lutte et d'ambition? Comment on en éveille d'anciens à la vie? Comment le spectacle se répète? Comment les spectateurs se fatiguent du spectacle? Et parce que dès lors tout le cercle semble être parcouru, et alors survient un repos, un arrêt dans la respiration. Les rivières se perdent dans le sable. C'est la fin, ou du moins une fin. 115. Quelles sont les contrées qui réjouissent d'une façon durable? Cette contrée possède des traits significatifs pour un tableau, mais je ne puis saisir la formule pour l'exprimer. Comme ensemble, elle est insaisissable pour moi. Je remarque que tous les paysages qui me plaisent d'une façon durable contiennent sous leur diversité une simple figure de ligne géométrique. Sans un pareil substratum mathématique, aucune contrée ne devient pour l'œil un régal artistique. Et peut-être cette règle permet-elle une application symbolique à l'homme. 116. Lire à haute voix. Pour faire la lecture, il faut savoir déclamer. On doit partout appliquer des couleurs pâles, mais il faut déterminer le degré de pâleur conformément à un tableau fondamental aux couleurs pleines et profondes, qui toujours flotte devant vos yeux et vous dirige, c'est-à-dire d'après la façon dont on déclamerait les mêmes passages. Il faut donc être à même de le faire. 117. Le sens dramatique. Celui qui ne possède pas les quatre sens de l'art cherche à comprendre toute chose avec le cinquième sens, qui est le plus grossier. C'est le sens dramatique. 118. Herder. Herder est loin d'être ce qu'il voulait faire croire qu'il était et ce qu'il désirait croire lui-même. Il n'est pas un grand penseur et un grand inventeur. Il n'est pas un terrain nouveau et fécond, avec une puissance vierge et inutilisée. Mais il possédait au plus haut degré le flair de ce qui allait venir. Il voyait et cueillait les primeurs des saisons plutôt que tous les autres. Et ceux-ci pouvaient alors croire que c'était lui qui les avait fait pousser. Son esprit était sans cesse aux aguets, entre le clair et l'obscur, le vieux et le jeune. Partout où des passages, des renfoncements, des bouleversements indiquaient l'existence de sources intérieures, l'inquiétude du printemps l'agitait, mais lui-même n'était pas le printemps. Il s'en doutait bien de temps en temps et ne voulait pas se l'avouer à lui-même. Lui, le prêtre ambitieux, qui aurait tant aimé être le pape des esprits de son temps. Ce fut là sa souffrance. Il semble longtemps avoir vécu en prétendant de plusieurs royaumes de l'esprit et même d'un empire universel. Et il avait ses partisans qui croyaient en lui. Le jeune Goethe était parmi eux. Mais partout où l'on finissait par distribuer véritablement des couronnes, il s'en allait les mains vides. Kant, Goethe, et ensuite les premiers véritables historiens et philologues allemands, lui enlevèrent ce qu'il croyait s'être réservé. Mais sans qu'il crût parfois à cette priorité dans le silence et le secret de lui-même. C'est justement lorsqu'il doutait de lui-même qu'il aimait à se draper dans la dignité et l'enthousiasme. Et ce manteau devait souvent cacher bien des choses, et aussi le duper et le consoler lui-même. Il possédait véritablement de l'enthousiasme et de l'ardeur. Mais son ambition était beaucoup plus grande que tout cela. Cette ambition avivait le feu et il se mettait à flamber, à crépiter et à fumer. Le style de Herder flambe, crépite et fume. Mais il désirait la grande flamme et celle-ci ne venait jamais. Il ne pouvait s'asseoir à la table des créateurs véritables et son ambition ne lui permettait pas de se placer humblement parmi ceux qui jouissent simplement. C'est pourquoi il fut un hôte inquiet qui goûtait d'avance tous les mets intellectuels que pendant un demi-siècle les Allemands ramassèrent dans tous les mondes et dans tous les temps. Jamais totalement rassasié et heureux, Herder était de plus trop souvent malade. Alors la jalousie s'asseyait parfois à son chevet et l'hypocrisie, elle aussi, lui rendait visite. Il gardait une allure de contrainte et semblait rongé par une blessure. Plus qu'aucun de ceux que l'on appelle nos classiques, il manquait d'une brave et simple virilité. 119. Odeur des mots. Chaque mot a son odeur. Il y a une harmonie et une dissonance des parfums, donc aussi des mots. 120. Le style cherché. Le style trouvé est une offense pour l'ami du style cherché. 121. Promesse solennelle. Je ne veux plus lire un auteur chez qui l'on remarque qu'il a voulu faire un livre. Je ne lirai plus que ceux dont les idées devinrent inopinément un livre. 122. La convention artistique. Ce qu'a écrit Homère est convention aux trois quarts, et il en est ainsi de presque tous les artistes grecs qui n'avaient aucune raison de s'adonner à la rage d'originalité qui est le propre des modernes. Ils n'avaient nulle crainte du conventionnel. C'était là un moyen pour entrer en communion avec leur public, car les conventions sont des procédés pour l'entendement de l'auditeur. Une langue commune, péniblement apprise, au moyen de quoi l'artiste peut véritablement se communiquer. Surtout lorsque, comme les poètes et les musiciens grecs, il veut être immédiatement victorieux avec son œuvre d'art, étant habitué à lutter publiquement avec un ou deux rivaux. C'est aussi la première condition pour être compris immédiatement, ce qui n'est possible que par la convention. Ce que l'artiste invente au-delà de la convention, il l'ajoute de son propre chef, et il s'y risque lui-même, au meilleur cas, avec ce succès d'avoir créé une nouvelle convention. Généralement, ce qui est original est regardé avec étonnement, parfois même adoré, mais rarement compris. Vouloir échapper avec opiniâtreté à la convention, c'est vouloir ne pas être compris. À quoi vise donc la folie d'originalité des temps modernes? 123. Affectation de la science chez les artistes. Schiller croyait, avec quelques autres artistes allemands, que lorsqu'on a de l'esprit, on a le droit de se livrer à l'improvisation sur toutes sortes de sujets difficiles. Nous avons donc ces compositions en prose, à tous les points de vue un modèle, pour montrer la façon dont il ne faut pas s'attaquer aux questions scientifiques de l'esthétique et de la morale, et aussi un danger pour les jeunes lecteurs qui, dans leur admiration pour le poète Schiller, n'ont pas le courage d'estimer peu le penseur et l'écrivain Schiller. La tentation qui s'empare si facilement de l'artiste, tentation pardonnable entre toutes, de passer une fois, lui aussi, sur une prairie qui lui est interdite, et de dire son mot dans la science. Car le plus brave trouve parfois son métier et son atelier insupportables. Cette tentation est si forte chez l'artiste qu'il veut montrer à tout le monde ce que personne n'a besoin de voir, à savoir que son petit pensoir est étroit et désordonné, qu'importe, il n'y habite pas, que les greniers de son savoir sont vides, à moitié pleins de fatras. Pourquoi non? L'enfant artiste s'en accommode même fort bien. Et surtout que, pour les plus faciles pratiques de la méthode scientifique, familières même aux commençants, ses membres sont trop peu exercés et pas assez agiles. Et de cela aussi, il n'a certainement pas besoin d'avoir honte. Par contre, il déploie parfois un art considérable à imiter tous les défauts, tous les travers et les mauvaises habitudes savantes que l'on trouve dans la corporation scientifique, avec l'idée que cela fait partie, sinon du sujet lui-même, du moins de l'apparence du sujet. Et c'est là précisément ce qu'il y a de réjouissant dans de pareils écrits d'artistes. L'artiste y fait sans le vouloir ce qui est en somme son métier, parodier les natures scientifiques et anti-artistiques. Vis-à-vis de la science, il ne devrait pas prendre d'autre position que la parodie, du moins en tant qu'il est artiste, et rien qu'artiste. 124. L'idée de Faust. Une petite couturière est séduite et plongée dans le malheur. Un grand savant des quatre facultés est le malfaiteur. Il y a certainement quelque chose là-dessous, car cette histoire n'a rien de naturel. Sans l'aide du diable en personne, le grand savant ne serait pas arrivé à ses fins. Serait-ce là vraiment la plus grande pensée tragique allemande, comme on entend dire parmi les Allemands? Pour Goethe, cependant, cette pensée avait quelque chose de trop épouvantable. Son cœur compatissant ne pouvait faire autrement que de transporter la petite couturière, la bonne âme qui ne s'est oubliée qu'une seule fois, après sa mort involontaire, dans le voisinage des saints. Et il parvint même, par un mauvais tour que l'on joue au diable au moment décisif, à faire entrer au ciel le grand savant, alors qu'il en était temps encore, lui, l'homme bon, à l'instinct obscur. En sorte que là-haut, au ciel, les amants se retrouvent. Goethe disait une fois que pour les sujets véritablement tragiques, sa nature avait été trop conciliante. 125. Y a-t-il des classiques allemands? Sainte Beuve remarque une fois que la manière de certaines littératures ne s'accorde pas du tout avec le mot classique. Il ne viendrait, par exemple, à l'idée de personne de parler de classiques allemands. Que disent de cela nos libraires allemands qui sont en train d'ajouter aux 50 classiques allemands, à qui nous devons déjà croire, 50 nouveaux classiques? Il semble presque qu'il suffirait simplement d'être mort depuis 30 ans et de s'étaler publiquement comme une proie offerte à tous pour entendre soudain la trompette de résurrection qui vous sacre classique. Et cela, dans un temps et au milieu d'un peuple où, des si grands ancêtres de la littérature, 5 sont en train de vieillir incontestablement ou ont même déjà vieilli, sans que ce temps et ce peuple aient précisément besoin d'avoir honte de cela. Car ces écrivains ont cédé la place aux forces de ce temps. Il suffit d'y songer en toute équité. Comme je l'ai indiqué, je fais abstraction de Goethe. Il appartient à une catégorie supérieure de littérature qui est au-dessus des littératures nationales. C'est pourquoi la vie, la nouveauté, la caducité n'entre pas en ligne de compte dans ses rapports avec sa nation. Il n'a vécu que pour le petit nombre, et c'est pour le petit nombre qu'il vit encore. Pour la plupart des gens, il n'est qu'une fanfare de vanité qu'on souffle de temps en temps au-delà des frontières allemandes. Goethe fut non seulement un homme bon et grand, mais encore une culture. Dans l'histoire des Allemands, il est un incident sans conséquence. Qui pourrait, par exemple, découvrir dans la politique allemande des 70 dernières années une influence quelconque de Goethe? Tandis que Schiller a certainement travaillé à cette histoire et peut-être un peu Lessing. Mais que dire de ces 5 autres? Klopstock vieillit déjà de son vivant d'une façon très vénérable, et si foncièrement que le livre réfléchi de ses années de vieillesse, Sa République des savants, n'a été jusqu'aujourd'hui pris au sérieux par personne. Herder eut le malheur d'écrire des ouvrages qui étaient toujours trop neufs ou déjà vieillis. Pour les esprits plus subtils et plus forts, comme Lichtenberg, l'œuvre principale de Herder, ses idées sur l'histoire de l'humanité par exemple, avait quelque chose de suranné dès son apparition. Wieland, qui abondamment avait vécu et engendré la vie, prévint, en homme avisé, la diminution de son influence par la mort. Lessing subsiste peut-être encore aujourd'hui, mais parmi les savants jeunes et toujours plus jeunes. Et Schiller est sorti maintenant des mains des jeunes gens pour tomber dans celle des petits garçons, de tous les petits garçons allemands. C'est pour un livre, une façon connue de vieillir, que que de descendre à des âges de moins en moins mûrs. Et qu'est-ce qui a refoulé ces cinq écrivains de sorte qu'ils ne sont plus lus par les hommes laborieux d'une instruction solide? Le goût meilleur, la réflexion plus mûre, la plus grande estime du vrai et du véritable, c'est-à-dire des vertus qui ont été implantées de nouveau en Allemagne par ces cinq, précisément, et par 10 ou 20 autres moins éclatants, et qui maintenant, en forêt somptueuse, étendent sur leur propre tombe l'ombre de la vénération et aussi un peu de l'ombre de l'oubli. Mais les classiques ne sont pas les planteurs des vertus intellectuelles ou littéraires. Ils sont l'accomplissement et les plus hauts sommets de ces vertus, qui continuent à s'élever au-dessus des peuples, lors même que ceux-ci périraient, car ils sont plus légers, plus libres et plus purs qu'eux. On peut imaginer un état supérieur de l'humanité où l'Europe des peuples aura sombré dans l'oubli du passé, mais où l'Europe vivra encore dans 30 volumes très anciens et qui ne vieilliront jamais, dans les classiques. 126. Intéressant mais point beau. Cette contrée cache sa signification, mais elle en a une que l'on aimerait deviner. Partout où je regarde, je lis des mots et des indications de mots, mais je ne sais pas où commence la phrase qui résout l'énigme de toutes ces indications. Et je gagne un torticolis à essayer vainement de lire en commençant par tel côté ou par tel autre. 127. Contre les novateurs du langage. Faire des néologismes ou des archaïsmes dans le langage. Préférer le rare et l'étrange. Viser à la richesse des expressions plutôt qu'à la restriction. C'est toujours le signe d'un goût qui n'a pas encore atteint sa maturité ou qui est déjà corrompu. Une noble pauvreté, mais dans un domaine sans apparence, une liberté de maître. C'est ce qui distingue, en Grèce, les artistes du discours. Ils veulent posséder moins que ne possède le peuple, car c'est le peuple qui est le plus riche en choses anciennes et nouvelles. Mais ce peu, ils veulent le posséder mieux. On en a vite fini d'énumérer leurs archaïsmes et leurs étrangetés. Mais l'admiration est sans borne si l'on a de bons yeux pour voir la façon légère et douce dont ils approchent ce qu'il y a de quotidien et de très usé en apparence dans les mots et les tours de phrase. 128. Les auteurs tristes et les auteurs graves. Celui qui couche sur le papier ce qu'il souffre devient un auteur triste. Mais il devient un auteur grave s'il nous dit ce qu'il a souffert et pourquoi il se repose maintenant dans la joie. 129. Santé du goût. D'où vient que la santé ne soit pas aussi contagieuse que la maladie? Ceci d'une façon générale et surtout en matière de goût. Ou bien, y a-t-il des épidémies de santé? 130. Résolution. Ne plus lire un livre qui, aussitôt qu'il est né, a été baptisé avec de l'encre. 131. Corriger la pensée. Corriger le style, c'est corriger la pensée, et rien de plus. Celui qui n'en convient pas du premier coup ne pourra jamais en être persuadé. 132. Livre classique. Le côté le plus faible de tout livre classique, c'est qu'il est trop écrit dans la langue maternelle de son auteur. 133. Mauvais livre. Le livre doit crier après la plume, l'encre et la table de travail. Mais généralement, c'est la plume, l'encre et la table de travail qui crient après le livre. C'est pourquoi de nos jours, les livres sont si peu de choses. 134. Présence des sens. Le public, en réfléchissant à des tableaux, devient poète. Mais quand il réfléchit à des poèmes, il devient observateur. Au moment où l'artiste fait appel au public, il manque généralement du sens véritable, donc non point de présence d'esprit, mais de présence des sens. 135. Idée choisie. Le style choisi d'une époque prééminente crée non seulement les mots, mais encore les idées. Et il cherche, tant les mots que les idées, dans ce qui est usuel et dominant. Les idées risquées et trop neuves répugnent tout autant au goût mûr que les images et les expressions neuves et audacieuses. Plus tard, ces deux choses, l'idée choisie et le mot choisi, sentent facilement la médiocrité, parce que l'odeur particulière s'y perd vite et qu'on n'y sent plus que le banal et le quotidien. 136. Cause principale de la corruption du style. Vouloir montrer plus de sentiments pour une chose qu'on en possède réellement détruit le style dans la langue et dans les arts. Tout grand art possède plutôt le penchant contraire. Pareil à tout homme d'une réelle valeur morale, il faudra arrêter le sentiment en route et ne pas le laisser aller tout à fait jusqu'au bout. Cette pudeur de la demi-visibilité du sentiment est, par exemple, le plus admirablement observée chez Sophocle. Et elle semble transfigurer les traits du sentiment lorsque celui-ci se montre lui-même plus sobre qu'il ne l'est. 137. Pour excuser les stylistes lourds. Ce qui est dit légèrement tombe rarement dans l'oreille avec son poids véritable. Mais c'est la faute à l'oreille mal disciplinée qui, éduquée par ce que l'on a appelé jusqu'à présent la musique, a dû négliger l'école des harmonies supérieures, c'est-à-dire du discours. 138. Perspective à vol d'oiseau. Voici des torrents qui se précipitent de plusieurs côtés dans un gouffre. Leur mouvement est si impétueux et entraîne l'œil avec tant de force que les versants de la montagne, nus ou boisés, ne semblent pas s'incliner, mais couler dans les profondeurs. Devant ce spectacle, on éprouve les angoisses de l'attente, comme si derrière tout cela se cachait quelque chose d'hostile qui pousserait à la fuite et dont l'abîme seul pourrait nous protéger. Il n'est pas possible de peindre cette contrée, à moins que l'on ne plane au-dessus d'elle, dans l'air libre, comme un oiseau. Ce que l'on appelle la perspective à vol d'oiseau n'est donc pas ici le bon plaisir de l'artiste, mais le seul procédé possible. 139. Comparaison hasardeuse. Lorsque les comparaisons hasardeuses ne sont pas la preuve de la malice d'un écrivain, elles sont la preuve de son imagination épuisée. Mais dans tous les cas, elles témoignent de son mauvais goût. 140. danser dans les chênes. En face de chaque artiste, poète ou écrivain grec, il faut se demander quelle est la nouvelle contrainte qu'il s'impose et qu'il rend séduisante aux yeux de ses contemporains, pour trouver ainsi des imitateurs. Car ce que l'on appelle invention, sur le domaine métrique par exemple, est toujours une de ces entraves que l'on se met à soi-même. Danser dans les chaînes, regarder les difficultés en face, puis étendre dessus l'illusion de la facilité. C'est là le tour de force qu'ils veulent nous montrer. Chez Homère, déjà, on remarque une série de formules transmises et de règles dans le récit épique, au milieu desquelles il lui fallut danser. Et lui-même ajouta de son propre chef de nouvelles conventions pour ceux qui allaient venir. Ce fut là l'école éducatrice des poètes grecs. Se laisser imposer d'abord par les poètes précédents une contrainte multiple, puis ajouter l'invention d'une contrainte nouvelle, s'imposer cette contrainte et la vaincre avec grâce, afin que soit remarquée et admirée la contrainte et la victoire. 141. Ampleur des écrivains. La dernière chose qui vient à un bon écrivain, c'est l'ampleur. Celui qui la porte avec lui ne sera jamais un bon écrivain. Les plus nobles chevaux de course sont maigres jusqu'à ce qu'ils puissent se reposer de leur victoire. 142. Héros essoufflés. Les poètes et les artistes qui souffrent d'étroitesse dans les sentiments font haleter leur héros le plus longtemps. Ils ne s'entendent pas à respirer facilement. 143. Les demi-aveugles. Le demi-aveugle est l'ennemi né de tous les écrivains qui se laissent aller. Quelle colère le prend en fermant un livre où il s'est aperçu que l'auteur a besoin de 50 pages pour faire part de 5 idées. Il est furieux d'avoir mis en danger, presque sans récompense, ce qui lui reste Dieu. Un demi-aveugle disait un jour « Tous les auteurs se sont laissés aller. » Le Saint-Esprit aussi ? Le Saint-Esprit aussi, mais il en avait le droit. Il écrivait pour ceux qui étaient complètement aveugles. 144. Le style de l'immortalité. Thucydide, tout aussi bien que Tacite, en élaborant leurs œuvres, ont songé à l'immortalité. Si on ne le savait pas d'une autre manière, cela se devinerait déjà à leur style. L'un croyait donner de la durée à ses idées en les réduisant par l'ébullition. L'autre, en y mettant du sel. Et tous deux, semble-t-il, ne se sont pas trompés. 145. Contre les images et les symboles. Avec les images et les symboles, on persuade, mais on ne démontre pas. C'est pourquoi, dans le domaine de la science, on a une telle terreur des images et des symboles. Car ici, l'on ne veut précisément pas ce qui convainc et rend vraisemblable. On provoque au contraire la plus froide méfiance, rien que par la façon de s'exprimer et la nudité des murs, parce que la méfiance est la pierre de touche pour l'or de la certitude. 146. Se garder. En Allemagne, celui qui ne possède pas un savoir profond devra bien se garder d'écrire. Car le bon allemand ne dit pas « il est ignorant », mais « il est d'un caractère douteux ». Cette conclusion hâtive fait d'ailleurs honneur aux Allemands. 147. Squelette tatoué. Les squelettes tatoués, ce sont les auteurs qui aimeraient remplacer ce qui leur manque de chair par des couleurs artificielles. 148. Le style grandiloquent est ce qui lui est supérieur. On apprend plus facilement à écrire avec grandiloquence qu'à écrire légèrement et simplement. Les raisons de cela se perdent dans le domaine moral. 149. Sébastien Bach. Lorsque l'on n'écoute pas la musique de Bach en connaisseur accompli et sagace du contrepoint et de toutes les manières du style de la fugue, lorsque l'on se prive ainsi d'une véritable jouissance artistique, on l'écoutera tout autrement, avec l'état d'esprit d'un homme, pour employer avec Goethe une expression magnifique, qui eût été présent au moment où Dieu créa le monde. C'est-à-dire que l'on sentira alors qu'il y a là quelque chose de grand qui est dans son devenir, mais qui n'est pas encore. Notre grande musique moderne. Elle a déjà vaincu le monde en remportant la victoire sur l'Église, les nationalités et le contrepoint. Dans Bach, il y a encore trop de christianisme cru, de germanisme cru, de scolastique cru. Il se trouve au seuil de la musique européenne moderne. Mais de là, il tourne son regard vers le Moyen-Âge. 150. Haendel. Haendel, lorsqu'il composait sa musique, était brave, novateur, vrai, puissant. Il se tournait vers un héroïsme semblable à celui dont un peuple est capable. Mais lorsqu'il s'agissait d'achever son travail, il était souvent plein de contraintes, de froideur et même de dégoût de soi. Alors, il se servait de quelques méthodes éprouvées dans l'exécution. Il se mettait à écrire vite et beaucoup, était trop heureux d'en avoir fini. Mais ce n'était pas un contentement pareil à celui de Dieu et d'autres créateurs, au soir de leur journée féconde. 151. Haydn. Si la génialité peut s'allier à la nature d'un homme simplement bon, Haydn a possédé cette génialité. Il va jusqu'à la frontière que la moralité trace à l'intelligence. Il ne fait que de la musique qui n'a pas de passé. 152. Beethoven et Mozart. La musique de Beethoven apparaît souvent comme une contemplation profondément émue à l'audition d'un morceau que l'on croyait perdu depuis longtemps. C'est l'innocence dans les sons, une musique au sujet de la musique. La chanson du mendiant ou de l'enfant des rues, les motifs traînants des Italiens en voyage, les airs de danse des auberges de village ou des nuits de carnaval, voilà les sources d'inspiration où Beethoven découvre ses mélodies. Il les amasse comme une abeille en saisissant çà et là une note ou une courte suite. Ce sont pour lui des souvenirs transfigurés d'un monde meilleur, semblables à ce que Platon imaginait au sujet des idées. Mozart est dans un rapport tout différent avec ses mélodies. Il ne trouve pas ses inspirations en entendant de la musique, mais en regardant la vie la plus mouvementée des contrées méridionales. Il rêvait toujours de l'Italie lorsqu'il n'y était pas. 153. Récitatif. Autrefois, le récitatif était sec. Maintenant, nous vivons en un temps du récitatif mouillé. Il est tombé à l'eau et les vagues l'entraînent où elles veulent. 154. Musique sereine. Lorsque l'on entend de la musique, après en avoir été privé très longtemps, elle passe trop vite dans le sang, comme un de ces vins épais du midi, et laisse à l'âme une griserie semblable à celle d'un narcotique qui la plonge dans un état de demi-sommeil et de désir. C'est surtout le cas de la musique sereine, qui procure en même temps de l'amertume et de la douleur, de la satiété et du mal de pays, et qui force à absorber tout cela sans cesse comme un doux breuvage empoisonné. Pendant ce temps, la salle où bruit une joie sereine semble se rétrécir toujours davantage. La lumière paraît diminuer d'intensité et devenir plus sombre. Finalement, on croit entendre la musique comme si elle entrait dans une prison où le mal du pays empêche un pauvre homme de dormir. 155. François Schubert. François Schubert, un artiste moindre que les autres grands musiciens, possédait cependant plus que ceux-ci une richesse héréditaire en musique. Il gaspilla cette richesse à pleines mains et d'un cœur généreux, en sorte que les musiciens pourront encore vivre pendant quelques siècles de ses idées et de ses inventions. Dans son œuvre, nous possédons un trésor d'inventions inutilisées. Si l'on osait appeler Beethoven l'auditeur idéal d'un ménestrel, Schubert aurait le droit d'être appelé lui-même le ménestrel idéal. 156. La diction musicale la plus moderne. La grande diction tragico-dramatique dans la musique acquiert son caractère par l'imitation des gestes du grand pêcheur, tels que le christianisme imagine et souhaite celui-ci. De l'être qui marche à pas lents, méditant avec passion, agité par les tortures de la conscience, fuyant, tantôt avec épouvante, tantôt s'arrêtant avec désespoir, ou encore les mains tendues dans le ravissement, et quels que soient les autres signes du grand état de péché. Mais le chrétien admet que tous les hommes sont de grands pécheurs et ne font que pécher sans cesse, et cette condition pourrait seule justifier l'application à toute la musique de ce style dans la diction. Et cela, en ce sens que la musique serait le reflet de tous les actes humains et aurait comme tel à parler sans cesse le langage que le grand pécheur exprime dans ses gestes. Un auditeur qui ne serait pas assez chrétien pour comprendre cette logique, aurait, il est vrai, le droit de s'écrier en face d'une pareille diction musicale. Au nom du ciel, comment le péché est-il entré dans la musique? 157. Félix Mendelssohn. La musique de Félix Mendelssohn est la musique du bon goût, qui prend plaisir à tout ce qu'il y eut autrefois de bien. Elle renvoie toujours à ce qui est derrière elle. Comment pourrait-elle avoir beaucoup de choses devant elle, beaucoup d'avenir? Mais Félix Mendelssohn, voulut-il donc avoir de l'avenir? Il possédait une vertu qui est rare parmi les artistes, celle de la reconnaissance sans arrière-pensée. Et c'est là aussi une vertu qui renvoie toujours à ce qui est derrière elle. 158. une mère des arts. À notre époque de scepticisme, un héroïsme brutal de l'ambition fait presque partie de la véritable dévotion. Il ne suffit plus de fermer fanatiquement les yeux et de courber les genoux. Ne serait-il pas possible que l'ambition d'être à jamais le dernier héros de la dévotion devint la mère d'une dernière musique religieuse catholique, de même qu'elle engendra déjà le dernier style de l'architecture religieuse. On l'appelle le style jésuite. 159. La liberté dans les entraves, une liberté princière. Le dernier des nouveaux musiciens qui ait vu et adoré la beauté à l'égal de Leopardi, le polonais Chopin, lui qui fut l'inimitable, tous ceux qui sont venus avant lui et après lui n'ont pas droit à cette épithète. Chopin, dis-je, possédait la même noblesse princière dans le convenu que Raphaël dans l'emploi des couleurs traditionnelles les plus simples, mais non par rapport aux couleurs, mais aux usages mélodiques et rythmiques. Il admit ces usages, car il était né dans l'étiquette, mais tel l'esprit le plus subtil et le plus gracieux, se livrant dans ses entraves au jeu et à la danse, sans qu'il voulût même s'en moquer. 160. La barcarolle de Chopin. Presque tous les états d'âme et toutes les conditions de la vie possèdent un seul moment bienheureux. C'est ce moment-là que les bons artistes savent découvrir. Il y en a un même dans la vie sur la côte, cette vie si ennuyeuse, si malpropre, si malsaine, qui se déroule dans le voisinage de la populace la plus bruyante et la plus rapace. Ce moment bienheureux, Chopin a su lui prêter des accords dans sa barcarolle, au point que les dieux eux-mêmes pourrait avoir envie de s'étendre dans une barque durant les longs soirs d'été. 161.